Il devait avoir un sacré budget pour ce film-là, en tout cas, pour Christopher Nolan. Enfin, moi, j'étais agréablement surpris, mais tout le monde n'est pas d'accord avec moi.
Tu dois être ravi de faire partie de l'équipe Cinémac alors. La team qui a aimé l'Odyssée.
Avec des réserves quand même. Hein,
Oui, bon, quand même. Bon,
non, je veux entendre Alice dire de bonnes choses sur Nolan. C'est quelque chose que vous entendrez qu'une fois dans vos vies. Hein.
À toi,
c'est
Alice.
Comme une éclipse.
Ça dépend de Nolan après. Hein.
Ah.
Ça dépend entièrement de lui. Non, il est chouette. C'est un bon film. Alors, j'avoue que j'avais pas l'Odyssée moi, enfin toute l'histoire en tête parce que je l'ai lu il y a longtemps et j'allais pas relire l'Odyssée avant d'aller voir le film. J'avais d'autres choses à lire. Mais on passe un bon moment et le scénario se tient en fait pour une fois avec Nolan et ça fait du bien.
Comment ça pour une fois?
Pardon.
Pour une fois.
Alors là.
Pardon, il fallait que je lance une pique. Non, mais le voilà, l'histoire se tient.
On va installer un ring. Parce que.
Et on est dans la même équipe. Hein.
Non, effectivement, les images sont sublimes, les décors aussi, les acteurs, il n'y a rien à dire. Voilà, ils sont tous. Robert Pattinson est absolument merveilleux, comme toujours.
Tu adores le détester dans le film.
Oui, exactement. De toute façon, c'est un acteur. Pour l'instant, il ne m'a jamais déçu. Je n'ai pas vu Twilight. J'ai vu tous ses autres films presque, mais. Voilà. Donc non, c'est un bon film. Après, franchement, vous allez me tuer. Ça aurait pu être réalisé par quelqu'un d'autre. En fait, j'ai pas vu moi de patte spécifique. Ouais, il y en a qui sont pas d'accord là.
Je sens que Maud veut réagir après.
J'ai pas vu de patte spécifique à part voilà des. Je vais me faire tuer. Je ne vais pas venir aux autres émissions. Je serai morte.
Non, vas-y.
Aidez-moi. Vas-y, Maud.
Non, mais, mais qu'est-ce que tu as contre Christopher Nolan? Vas-y, dis-nous tout. Non, mais Christopher Nolan, c'est quand même la personne qui a fait renaître la franchise Batman, quoi. The Dark Knight Rises. Je sais pas, moi.
Tu parles à quelqu'un qui n'aime pas Batman.
Oh, mais non, mais franchement, non.
Du coup, bon. Non, alors après, j'ai bien aimé ces Batman, je veux dire.
Mais c'est
voilà.
Les meilleurs. C'est les meilleurs.
Je suis pas une grande fan de Batman. Pour moi, c'est un riche qui se croit tout permis. Mais on pourra revenir sur Batman un autre jour, si vous voulez. Mais non, ce que j'aime pas avec Nolan, souvent, ses scénarios sont ultra compliqués pour pas grand-chose. Il essaye de nous entourlouper avec des choses, en fait, qui sont assez simples et communs. Je veux dire, Inception, ça va pas révolutionner mon monde de science-fiction, quoi. Voilà. Mais après, c'est un bon film, hein, j'ai bien aimé, mais bon, je suis pas ressortie de là avec des paillettes dans les yeux, quoi. Je vais vraiment me faire tuer. Et mon plus gros problème avec Nolan, alors j'ai deux plus gros problèmes, en fait. C'est son traitement des personnages. Que je trouve sans émotion, aucune. J'ai jamais d'émotion après un film de Nolan. Et c'est un peu ce que je reproche aussi à l'Odyssée. C'est un personnage qu'il a voulu caractériser par la culpabilité, et je l'ai ressenti qu'à la fin. Et ne parlons même pas, alors je voudrais pas spoiler, mais il y a une scène avec un animal que moi j'attendais tout le film, et qui m'a profondément déçue, où je me suis dit, c'est tout, ok, bon. Passons à autre chose. Et le deuxième problème, ce que j'ai, alors qui a été un peu résolu avec l'Odyssée, parce qu'il a voulu, voilà, même s'il y aurait des choses à dire, c'est son traitement des femmes, des personnages féminins. Et donc voilà, c'est vraiment le scénario, ces personnages, et j'accroche pas en fait. Après, techniquement, cinématographiquement, j'ai rien à dire, c'est toujours très beau. Il y a toujours de la mise en scène intéressante. C'est vraiment plutôt sur le scénario et les personnages où en fait ils ne me parlent pas. Donc c'est pas tant que je le trouve nul, c'est que moi ils ne me parlent pas. Voilà, je sais pas si ça répond à qu'est-ce que j'ai contre lui.
Je vais défendre un petit peu le cinéma de Nolan quand même. Déjà, je pense que toute sa note d'intention est dans le film Le Prestige, qui te raconte justement, il t'explique en fait les coulisses de son cinéma via ce film-là. Le Prestige avec...
Qui n'est pas une histoire de lui.
Qui n'est pas une histoire de lui, mais du coup...
Christopher Priest représente.
Mais du coup, lui, il a utilisé ce film-là pour raconter ce qui le fascinait dans le cinéma. C'est ce côté justement, comment te détourner de ton intention très facilement, même dans une histoire simple. Et je pense que c'est ce qui caractérise un peu tout le cinéma de Nolan, c'est comment il peut essayer de te détourner ton intention par justement beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, etc. Alors que le scénario, en réalité, il est simple, hein. Bon, ça, on est d'accord. Mais la simplicité n'est pas un gros mot, et on peut faire des très bons films avec des scénarios très très simples. Et pour l'Odyssée, le seul bémol que là je vais pouvoir peut-être te rejoindre, même si tu n'en as pas parlé, mais c'est la question du rythme. C'est que le film, il est très très haché, mais c'est aussi dû... C'est pas grave quand tu connais l'histoire de l'Odyssée, mais en termes de cinéma, si t'as pas les références, si vraiment tu découvres l'Odyssée avec ce film-là, ça peut te paraître ultra haché. C'est en fait parce que, bah, comme l'histoire d'origine, c'est vraiment une suite de péripéties. Et là, tu le sens vraiment, une suite de péripéties. Et je trouve que le film prend son envol qu'à sa deuxième moitié, son dernier tiers, où là, il prend son envol, où là, tout devient fluide et cohérent. Et complètement, je suis totalement d'accord. C'est d'ailleurs le film de Nolan qui traite le mieux les femmes de toute sa filmographie.
C'est dire.
Parce que d'habitude, dans chacun de ses films, il y a toujours au moins une femme. C'est déjà très bien. Et là, il y en a plusieurs. Et pour certaines, elles sont quand même bien caractérisées. Et elles sont quand même chouettes à suivre. Et il faut savoir que cette version de l'Odyssée est basée sur une traduction récente par une femme, justement, de l'Odyssée, qui a déjà, dans sa traduction, a voulu remettre en avant au premier plan les femmes dans l'Odyssée. Qu'en pense notre deuxième invité ?
Alors, moi aussi, j'ai vu l'Odyssée deux fois. Et j'étais plutôt mitigée, vu que j'ai lu le livre. Donc, y a des choses que j'ai beaucoup aimées, notamment les jeux, l'acting, et j'ai eu du mal avec le rythme, mais j'ai bien aimé, par exemple, les effets visuels, à part quelques scènes d'action qui étaient pour moi brouillons, mais franchement, dans l'intégralité, c'était plutôt un bon film.
Alors moi, pour en rajouter sur le côté rythme, puisque je vois qu'il y a deux personnes à qui ça a posé problème, en fait, moi, je vois ça plus comme, justement, il traite les souvenirs de j'ai le nom qui m'est...
Ulysse.
Voilà, Ulysse. Les souvenirs de Ulysse hachurés comme elles reviennent au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que ce rythme est très hachuré. C'est parce que ça traite au fur et à mesure où les souvenirs reviennent à Ulysse. Mais moi, ça ne m'a pas posé problème personnellement.
Non. Alors c'est un problème, je pense surtout au premier visionnage, parce que du coup je l'ai vu deux fois aussi, une fois en VF en IMAX, parce que je voulais quand même, c'est un film entièrement tourné en IMAX, je voulais en profiter, et une deuxième fois en VO pour justement savoir si je l'ai vraiment apprécié ou pas, parce que la première fois que je l'ai vu, il m'a fallu une heure et demie pour rentrer dedans. Et ce qui m'a inquiété, parce que c'était l'un des films que j'attendais le plus, et à la fin j'ai été embarqué, et j'ai été plus rassuré. Connaissant la structure du film, en fait, je ne m'attendais pas à cette structure-là. Je m'attendais quand même à plus de liens, et c'est quand même très flagrant sur sa première heure, parce que la première heure, il n'y a pas une séquence qui dépasse 5-10 minutes, alors que dans la deuxième heure, il y a enfin des scènes qui prennent du temps, où là, d'un coup, le rythme se pose. Il y a toute une scène où d'un coup on reste au même lieu, au même endroit, les personnages se posent, etc. Et là, d'un coup, le fait qu'ils reposent le rythme, là, d'un coup, j'ai pu rentrer dedans et là, c'était parti. Et de toute façon, c'est carton plein pour Christopher Nolan, là, qui était à 1,5 milliard, je crois, au box-office. Il a dépassé Oppenheimer, qui a déjà été un énorme carton. Romain ?
Je comprends pas bien. Alors peut-être que je suis un vieux con misogyne, mais je comprends pas bien la critique qu'on fait aujourd'hui sur Nolan et les personnages féminins. Parce que quand je vois certains réalisateurs par rapport à Nolan...
Ah mais il est pas tout seul, hein.
Ah oui, non mais je veux bien, mais quand je vois Hilary Swank dans Insomnia, je suis désolé, je n'ai pas la sensation... À moins que je vois pas tout et que j'ai pas cette fibre-là, qu'il y a un film de Nolan, c'est quand même elle... qui est le coéquipier de Paul Fiction d'Al Pacino qui finit quand même limite fou dans ce film, et heureusement qu'elle est là. J'ai pas eu la sensation qu'elle avait un rôle de potiche. Dans tu parlais du prestige, alors soit toutes les femmes jouent le rôle des potiches de magiciens, mais on est dans l'Angleterre victorienne, donc j'ai pas le souvenir qu'à l'époque
c'est plus...
elles Tu vois ce que je veux dire?
C'est plus une question des finalités de ces personnages-là, parce que tu comprends Inception, c'est littéralement la femme morte de l'autre qui l'est obsédée par, donc elle est caractérisée que pour ça. Dans Interstellar, la finalité du personnage d'Anna Taoué, c'est attendre Mathieu McConaughey.
Je trouve un beau discours sur l'amour.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, mais je l'entends, mais je trouve ça un peu injuste. Je pense qu'on peut taper sur tous les James Bond. Vraiment, parce que là, je trouve ça quand même relativement injuste. Avant le cinéma de Nolan, j'ai au moins 1000 films. Et 1000 réalisateurs qui t'a... Et je trouve ça quand même
c'est pour ça
injuste
qu'on...
et pas très équilibré en fait sujet-là.
C'est pour ça qu'on ne t'a pas vraiment dessus. Moi je dis que l'Odyssée c'est son meilleur de ce point de vue-là.
Ouais, mais
c'est son meilleur de ce point de vue-là. Après,
est-ce que je peux rajouter quelque chose?
Oui, vas-y.
Je me permets, j'interviens, j'ai piqué le micro de Philippe. Sur la question de l'Odyssée, il y a aussi une question rapport au texte historique, enfin au texte de base, où le traitement des femmes n'était pas du tout le même dans le livre. Alors il y a beaucoup de choses qui sont changées par rapport au texte original, mais notamment le traitement des femmes est flagrant et se voit d'autant plus quand on voit Circé, quand on voit, j'ai plus le nom de l'autre personnage féminin,
Calypso,
merci, qui sont pas du tout présentés de la même façon. Calypso, elle l'a quasiment droguée, Circé, elle apparaît 5 minutes.
On parle d'un bouquin qui a été dit, qui n'a pas été écrit. Donc en fait, on parle de quelque chose dont on n'est même pas sûr. Donc,
non, mais
en
du fait, coup, c'est ça fait d'autant plus réagir les gens.
Complètement. Et c'est sur un réalisateur que je... Oui, je suis
alors
prêt
ça,
à discuter.
C'est pas
et
pire.
C'est plus ça que je trouve injuste, en fait. C'est que je peux trouver même Spielberg qu'on a fait beaucoup plus. Au grand nom, Spielberg, Dieu Spielberg, a été beaucoup plus misogyne que Nolan sur son cinéma. Et donc c'est plus ça qui me...
C'est pas une question de misogynie, il les traite pas forcément mal, c'est juste que en fait, mais moi c'est un reproche que je lui fais sur tous ces personnages, c'est que ces personnages féminins sont soit inexistants, soit sont toujours par rapport à des hommes ou
des faire-valoir. Des faire-valoir.
Ouais, ou font des discours complètement alambiqués de je suis une femme, donc l'univers tourne par l'amour. Franchement, moi, je suis désolée, elle m'a traumatisée cette scène.
Oui, non, mais je vois.
Mais, et c'est juste ça, en fait. C'est que
faut rappeler que t'as pas aimé Interstellar.
Je n'ai pas, non. Mais ça, on fera, il nous faudrait 3 heures.
Je comprenais plus tes critiques sur Interstellar, sur le film en lui-même. Même si j'étais pas d'accord, je l'entendais. Mais c'est. Bah, justement, Interstellar, j'ai pas l'impression. Ouais, elle vit par rapport à son père, c'est ça que tu veux dire?
Alors oui, la fille, de toute façon, elle c'est un personnage tout à fait secondaire et sans son père, elle n'est pas grand-chose. Et après, c'est une critique qu'on pourrait faire pour plein d'autres réalisateurs. Hein. C'est pas, j'ai pas dit que c'était juste Nolan. Oui,
après, en fait, c'est un peu dire un peu pour Interstellar parce que la fin, si on l'a bien compris, c'est en fait. Ils lui disent, c'est pas toi qui sauves l'humanité, c'est la femme parce qu'elle a pris le bon chemin. Je crois que dans Interstellar, c'était ça.
Ouais, mais pendant 2h30, on voit l'homme. Donc t'as sauvé l'humanité, mais bon, on te raconte pas ton histoire.
Je pense qu'on se le note pour plus tard, n'est-ce pas, Philippe, pour faire une émission spéciale Christopher Nolan. Parce qu'il y a d'autres films à traiter, ouais. Parce que mine de rien, il y a eu pas mal.
Alors, attends, parce que moi, je voulais rebondir sur un truc que Romain a dit tout à l'heure. Romain, t'as parlé aussi de taper sur James Bond. Est-ce que tu peux développer un peu? Parce que quand on a regardé les films de James Bond, tous ceux qui ont essayé, ça s'est mal fini pour eux, quoi.
C'est pas faux. Tu veux que je me lance? Non mais James Bond, il y a que je compte 2 ou 3 fois où la femme a un vrai personnage. Donc t'as Vesper dans Casino Royale, celle qui joue Emma Peel qui est dans Chapeau Melon et Bottes de Cuir, j'ai oublié son nom, qui joue aussi dans Game of Thrones, j'ai oublié son nom, voilà, qui joue dans les Diamants de Sa Majesté, qui a un vrai rôle et qui est vraiment qui est construit. Et après c'est tout. Parce que même si on est chez Pathé, cette chère Léa Seydoux n'est juste bonne à être engrossée. Excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais non, mais réellement
oui,
mais c'est ça. Réellement c'est ça. Donc là-dessus, tu regardes Vivre et laisser mourir avec Jane Seymour, qui est autant regarder ça qu'au SS-117, c'est encore plus drôle, vraiment. Et il faut le regarder en VF. Je conseille. C'est le premier Roger Moore. Les blacks ont des accents à couper au couteau. Les nanas sont juste là pour, bah voilà, pour qu'on leur monte dessus et que on la et qu'elles meurent en plus. Donc non, mais
comme ça, pas de problème.
Oui, oui. Au moins, elle va pas faire chier, tu vois. Et il y a toujours un moment, elles sont là. Ah, James. Jamais une femme m'a parlé comme ça. Hein. C'est horrible.
Parce que tu t'appelles pas James aussi.
C'est pas faux. Mais donc voilà, il y a tout un cinéma. Mais justement, là, je parlais de Léa Seydoux, c'est le dernier James Bond qui a 5 ans. Elle est, c'est horrible. Elle est juste là pour être la mère d'avoir enfanté le seul enfant de James Bond au bout de quoi 60 ans, 70 ans de cinéma là-dessus. Donc bon, avant.
C'est un vieux papa, ça quand même.
C'est pas faux. Hein. C'est pas faux.
Je propose qu'on continue parce que James Bond, il n'y a pas de James Bond cet été qui est sorti.
Et on
pourquoi
sait toujours
on parle
pas qui va jouer James Bond.
Et en plus, on n'a toujours pas le casting, c'est exactement. Toujours pas annoncé. Bon,
on clôt le chapitre Nolan. On y reviendra sûrement dans d'autres émissions.
Ah mais... oui, clairement. Je crois que ça ouais. mériterait un chapitre entier, Christopher Nolan. Et il y a eu d'autres films. Qui a vu la fin d'Oak Street dans cette table?
Maud et moi, je pense. Alors Maud, vas-y, commence.
Oui, je l'ai vu. Honnêtement, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Alors, certains pourraient dire qu'il y a des choses qui sont pas logiques dans le film. Après, je vais pas. Oui, il y en a certains. Oui, mais moi, j'ai trouvé que c'était une bonne surprise, un bon divertissement. Il y a des moments très durs. Je spoil pas non plus, mais des moments très drôles aussi, notamment une photo. Je m'en remettrai pas. Mais oui, allez le voir. Franchement, très bon divertissement. Il y a un bon rythme. Moi, j'étais tout le temps là. Mais passe par là. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais non, il est derrière toi.
Ah, tu parles au personnage quand t'es dans le ciné?
Ah oui, oui, oui. Mon chéri me le reproche très souvent. Et c'est pas que dans le cinéma. Hein. C'est devant la télé. C'est.
Okay.
Mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là?
Ça, c'est devant France 2, devant le journal.
Mais ça marche? Ça marche, ils font ce que tu veux.
Non, 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 il y a souvent mon chéri qui me dit, mais tu sais, ils ne t'entendent pas.
Ça doit être très compliqué sur les films d'horreur où généralement les personnages, ils font pas ce qu'il faut. Et...
C'est ça, mais pourquoi elle monte à l'étage? Mais qu'est-ce qu'elle est bête?
Mais ne vous séparez pas.
Mais non, très très bon divertissement, j'ai beaucoup aimé. L'histoire est très sympa, il y a beaucoup d'action. Et on est sur notre fauteuil, on est tenu sur notre fauteuil en haleine jusqu'à la fin.
Alice.
Alors moi aussi j'ai bien aimé, grosse fan de dinosaures ici, donc j'attendais ce film avec forte impatience parce que Jurassic World c'est bien, mais ce serait bien de passer un peu à autre chose quoi. Et alors je serais moins élogieuse parce que j'aime bien critiquer, mais c'est un bon divertissement et je le conseille parce que c'est un bon moment de cinéma. Les dinosaures sont beaux et en plus ils ont respecté les nouvelles connaissances qu'on a dessus, donc ça c'est vraiment chouette de voir des dinosaures à plumes et avec des couleurs. Voilà, ça change un peu. On a alors non, je vais pas dire ça parce que ce serait spoiler. On n'a pas forcément les dinosaures qu'on attend. Moi j'en ai découvert de nouveaux. Voilà, notamment des choses qui rampent que je ne connaissais pas et qui m'ont fait très très peur. Voilà. Ensuite, la critique que j'aurais en fait est plutôt de fond, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un cinéma très conservateur, avec la petite famille, voilà, le garçon, la fille, le chien, la picket fence, voilà, le couple qui se déchire, l'homme qui essaye vigoureusement par le travail, la valeur travail, de retrouver sa masculinité. Voilà. Bon, passer ça, c'est un bon film, mais c'est vrai qu'il y a un côté très conservateur comme ça que j'ai trouvé un peu décevant, surtout pour ce réalisateur en fait, qui est quand même le réalisateur de It Follows. Qui nous a offert un film. Alors, je n'ai vu que It Follows, je n'ai pas vu. C'était Under the Silver Lake, je crois, qui est apparemment aussi merveilleux. Voilà. Je l'ai pas vu, moi. Donc voilà. Mais
ah,
It
non,
Follows.
Oh, non, non, je vais pas rentrer dans le débat, mais oh là là, c'est le pire film que j'ai jamais vu. Under the Silver Lake.
Oula.
Ah non, non, mais du début à la fin, j'ai.
C'est animé aujourd'hui.
Franchement, moi.
J'entends tout à fait ce que tu veux dire. Moi, je me suis fait embarquer parce que ça me rappelait Brick du mince, j'oublie celui qui a réalisé Looper et le j'ai oublié son nom, qui a réalisé
Ryan Johnson.
Voilà, merci. Donc c'était un peu dans cet esprit-là, cette espèce d'enquête. Alors, pour certains, ça tombe un peu à plat et que ça prend jamais. C'est ce que sache que t'es pas la seule à me l'avoir dit. Hein. Moi j'ai beaucoup aimé. Je me suis laissé. Bah, en fait, je voulais me laisser embarquer dans ce jeu de piste, en fait. Donc parce qu'il y avait ce côté-là et je voulais et ce côté un peu pop, un peu Sundance que j'ai bien voulu. Je me suis fait prendre là-dedans. Après, j'entends tout à fait que les personnes puissent pas apprécier.
N'empêche, je veux rappeler que la fin d'Oak Street est produite par Gigi Abrams, qui était déjà dans ce côté très nostalgique. Bon, déjà pour avoir repris Star Wars en main, dans le côté très, ce qu'on appelle la nostalgie, et qui avait aussi réalisé, il y a plus d'une dizaine d'années, il doit y avoir 14 ans maintenant, 2012, je crois, Super 8. Super 8 que Philippe a beaucoup aimé en plus.
Pas du tout. Comme le Star Wars de Abrams aussi, hein, les deux. Je les mets dans la même catégorie. Nul.
Tu m'avais dit quoi, que Super 8 t'es pas allé jusqu'au bout?
J'ai pas pu. Dès que j'ai vu l'apparition du monstre, j'ai fait c'est quoi ça? Mais c'est pas possible. Après, donc, j'ai vu les critiques, je me suis dit mais il y a un vrai problème.
Donc on en garde un bon souvenir pour la fin d'Oak Street.
Oui, ça, franchement, c'est un bon film à voir en famille. Alors avec des enfants qui n'ont pas trop peur, parce qu'il y a quand même des scènes un peu. Voilà. Mais oui, c'est un bon divertissement d'été. Voilà. Avec des beaux dinos.
Est-ce que vous l'avez vu dans notre table?
Non, moi non, mais ça m'intéresse là du coup, vu ce que j'entends.
Je ne l'ai pas vu non plus.
Ok, bah, en tout cas, il est toujours en salle, donc n'hésitez pas. J'aimerais quand même évoquer deux autres films. Evil Dead Burn, qui l'a vu dans cette table?
Moi.
Romain?
Non, je suis dessus, je ne me suis pas la moitié.
Tu vas nous dire ce que tu penses de la moitié. Maud, qu'en as-tu pensé?
Bah écoute, je me suis retapé tous les Evil Dead juste avant d'aller le voir, juste pour le délire, tu vois, du premier au à l'avant-dernier. Et honnêtement, bon, on a perdu ce côté vraiment film un peu grotesque qu'il y avait au début. J'ai pas accroché du tout sur le scénario, honnêtement. Hein. J'ai pas accroché du tout. C'est, je sais pas, du sang pour du sang, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'intérêt réel dans ce film-là. On s'attend à avoir peut-être un peu plus de développement sur l'histoire. Et en fait, non, du tout.
Romain?
En fait, vu que je me suis arrêté à la moitié, justement, je vais rebondir et j'entends. Bon, un, sans Bruce Campbell, ça marche pas. non mais oui, ça marche pas. Et il y en a. Ça veut pas dire que ceux sont Bruce Campbell sont mauvais. Il y a quand même. Non, je me permettrai pas de. Mais on sent que c'est un réalisateur qui percute pas en fait l'esprit. Celui qui était juste avant, même si c'est pas le meilleur, j'avais cet esprit-là. Ouais, un peu clownesque, un peu grand bazar, un peu rigolo. Un monstre peut se foutre de ta gueule en fait.
C'est ce que je trouve très intéressant avec la saga Evil Dead, c'est que justement chaque épisode est réalisé par un réalisateur différent, chacun a sa vision d'Evil Dead. Il y en a pour qui Evil Dead c'est le premier, qui était quand même plus premier degré, même si c'était un peu humour noir déjà, c'était quand même plus premier degré. Et il y en a pour qui c'est justement les deux autres avec Bruce Campbell, l'armée des ténèbres, etc. Et le côté justement Buster Keaton à fond dans le rôle, et le côté complètement délirant comédie noire assumée. Et par exemple, il y a Fede Alvarez qui a plus tard réalisé Alien Romulus, qui a fait le remake de 2013. Et qui, bizarrement, moi, la première fois que j'ai vu, j'avais pas aimé, parce que justement, moi, mon délire Evil Dead, c'est le délire clownesque, justement. C'est justement Bruce Campbell, c'est le personnage de Ash, c'est les. On sait qu'on fait de l'horreur, mais ce qui va twister ce truc-là, cette formule-là, c'est l'humour noir à fond. Et en fait, en deuxième visionnage, j'ai quand même vu un réalisateur qui avait sa patte et qui voulait surtout rendre hommage au premier film. Mais, et pour conclure, vas-y. Et tu vois, celui qui a suivi la Evil Dead Rise. Juste le fait de mettre tous les enjeux d'un Evil Dead dans un immeuble, j'ai trouvé ça juste génial. Et du coup, juste pour l'envie de twister un petit peu la formule Evil Dead, j'avais beaucoup apprécié. Par contre, je n'ai pas vu encore Evil Dead Burn.
Non, mais tu reprenais par rapport au premier. Et le premier, ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu te rends compte que c'est un réalisateur à l'époque en devenir qui a pas de moyens, donc forcément c'est l'idée. On va sûrement en parler tout à l'heure, mais obsession, c'est ça. Tu vois qu'il n'y a pas de moyens et que c'est l'idée qui fonctionne. Et le premier Evil Dead, c'est ça. Donc avec pas de moyens, on a des idées. Et après, tu pars en grand n'importe quoi. Là, t'arrives, t'as fait un film avec peu de moyens français, avec qui est Vermine. Et là, on t'envoie une grosse production. Je pense que c'est compliqué pour un réalisateur européen de venir faire quelque chose, surtout avec une franchise comme Evil Dead. Donc c'est, là-dessus, je serais plutôt indulgent. Mais voilà, c'est qu'à un moment, tu dois sentir que tu t'imprègnes ou c'est qu'il y a un problème avec les producteurs. Et l'un des producteurs, c'est Sam Raimi. Donc je pense que Sam Raimi, il a quelque chose à dire dedans.
C'est lui qui a choisi le réalisateur.
Voilà. Donc là, pour moi, il y a eu un souci, un problème de communication.
C'est pas le délire Evil Dead que vous attendiez ou c'est que c'est pas bon?
Ah
c'est
non.
Pas pareil.
Ah non, je dirais pas que c'est pas bon. Non, je me permettrai pas de dire ça. En fait, je suis trop vieux pour ça, quoi. Je suis trop vieux, c'est attendu en fait dans le film d'horreur, tout ce qui est arrivé était attendu, donc pour moi c'est pas nul, c'est attendu.
Donc sur les films de cet été, plutôt oubliable.
Oh oui.
Ok. Dernier film que j'ai quand même envie d'entendre parler Romain sur ce film là qui vient tout juste de sortir, The Dog Stars de Ridley Scott.
Alors, tu vois Walking Dead à partir de la 7e saison après que Negan ait tué un peu tout le monde, on s'est fait chier jusqu'à la fin. Bon bah t'as le film de Ridley Scott. c'est que il arrive après tout le monde sur les films post-apocalyptiques. Donc je pense que tu te dois de renouveler un peu le sujet. On parle d'un réalisateur qui réalise très vite et beaucoup de films par an. Il y a un moment, sur ce genre de sujet, souvent, en plus, tu peux prendre des décors où tu veux, dévaster et dire que c'est où tu veux dans le monde, parce que c'est un peu ça l'idée, hein, à chaque fois, qu'il y a toujours une espèce de peuple anarchiste qui veut prendre le pouvoir, et eux, c'est les survivalistes autour. Lui, c'est un peu le rêveur qui croit un peu à l'humanité, et t'as Josh Brolin qui est le conservateur. Donc chacun a ses caricatures. Tout ce qui leur arrive est surattendu, donc c'est pas nul. Sauf qu'il n'y a aucune surprise. Alors il y a des très beaux plans d'avion, vraiment des montagnes, tout ça, c'est super sympa, c'est chouette. Il rencontre une nana, mais 10 secondes, tu sais, bah oui, on sait. Alors il n'y a pas de mauvais acteur, c'est pas mauvais, mais heureusement qu'il fait 1h40. Non mais le sujet, je suis si horrible que ça. Mais non mais c'est vrai ça m'embête vraiment de critiquer Ridley Scott parce que c'est un super réalisateur. Il y a des tas de films qui sont pour moi des super souvenirs et que je regarde encore. Mais là, depuis un bon moment, moi depuis Napoléon, même avant, il y a eu le duel entre Napoléon et le dernier duel était bien.
Juste avant, il avait fait Alien Covenant.
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Excuse-moi, c'est vrai, il y a ce genre de trucs qui sont passés aussi par là. Non mais tu vois, il en fait tellement, il en fait beaucoup. Forcément, tu te rates. Pourtant, convenant, il y a 2-3 idées qui sont marrantes, qui sont intelligentes pour le, mais qu'il a pas du tout travaillé.
Mais ça aussi, ça à mettre sur notre liste en plus de Christopher Nolan, Ridley Scott, parce que je pense qu'on aurait beaucoup de choses à dire sur les 10 dernières années de Ridley Scott, sur les années 2010-2020.
En fait, ça m'emmerde de critiquer Ridley Scott, mais en même temps, il fait tellement, forcément, t'as beaucoup de ratés. Donc, il prend des risques. Il réalise tellement tout le temps, que cette année.
D'ailleurs, c'est l'un des rares réalisateurs à assumer de tourner en multicaméra. Mais quand je dis multicaméra, oui, c'est pas une ou deux ou trois. Il a plusieurs caméras sur tous les angles possibles et il fait sa réal un peu au montage.
Exactement. C'est vrai que après, il y a. Alors, moi, Napoléon, pour moi, je me fais. C'est pas possible qu'on puisse faire ça. Ça a été vraiment une déception sur tous les points. Et en plus, tu vois que c'est réalisé par un Anglais.
Ah, exactement. Si, y a vraiment un truc qui est choquant, ouais, c'est à quel
vois,
point
tu
c'est
fais,
vraiment.
Ok, on peut pas le blairer, c'est pas possible. C'est.
Et comment le roi d'Angleterre, il est favorisé.
Mais
oui, non,
tu fais passer Napoléon pour un petit bonhomme impuissant qui se fait. Non, mais en plus t'as la scène réellement dessus. T'es là, tu fais. Mais c'est complètement absurde. Alors tu sais que dans le monde entier, il est détesté, mais. Tu vois, tu sens qu'il n'y a pas de nuance, en fait. C'est un peu... C'est comme là, dans ce... Non, j'ai oublié le titre. The Dog Stars. Tu vois, tellement ça m'a marqué. Les personnages sont caricaturaux. Josh Brolin, voilà, c'est un beauf, point. Et qui a tout préparé, qui a toutes ses armes, qui sait tuer les gens comme il faut. L'autre, il aime les gens, il est prêt à se sacrifier bêtement. Mais non, c'est d'un ridicule. Disons que ce cinéma-là est extrêmement passé, quoi, en fait, surtout aujourd'hui.
Et pour clôturer le chapitre les films de l'été, est-ce qu'on peut faire un petit tour de table sur vos films préférés, des films que vous avez vus cet été? Donc Alice, tu nous as dit c'était Spider-Man.
Ouais, je vais rester avec Spider-Man, c'était chouette.
Spider-Man aussi, c'était bien.
Moi, allez, bah, je vais dire l'Odyssée.
Bon, j'ai adoré l'Odyssée, mais j'ai pris une sacrée claque avec Obsession. Honnêtement, je ne m'attendais pas à un film comme ça. Et j'ai été très surprise dans le bon sens du terme.
Moi, je vais dire l'Odyssée aussi.
J'ai pris une grande claque avec Obsession. J'ai vraiment pris un... Et à dire, le Obsession, je l'ai vu à 22h30 à Saran. Et se mettre dans une ambiance, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une séance tard. Sortir à plus de minuit, ça met une espèce de... En plus, on est sortis tous de la salle un peu en se regardant. On vient de voir un truc qu'on a besoin de débriefer. Donc c'est
Mais clairement, gardez-en sous le coude parce qu'on fera une émission dédiée au bilan des films d'horreur de l'année au mois de novembre, pour l'émission de novembre. Donc on aura tout le loisir de parler bien d'Obsession, Backrooms, Evil Dead et j'en passe.
Non, moi j'ai pas de suggestion par rapport aux films d'été. Par contre, on va pouvoir enchaîner avec le prochain interlude musical qui est Romain.
Oui, alors on est toujours dans des musiques un peu, on va dire, un peu mélancoliques.
Ah, t'as pas un truc qui se danse?
Alors, pour l'instant, non. Donc là, c'est un morceau qui est tiré du film Alabama Monroe, que je conseille à beaucoup de personnes. Donc c'est une balade country. Donc le titre, c'est If I Need You. Je l'ai bien dit, parce que... Ah, merci beaucoup, parce que l'anglais et moi, je parle sous le contrôle d'Alice, qui est bien meilleure que moi. Voilà, tiré du film Alabama Monroe, et que je conseille vraiment à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, mais avec un gros paquet de mouchoirs. Voilà. Donc, voilà, if I need you, c'est ça, putain, j'arrive toujours pas à le dire. Vas-y.
Allez, on écoute.
with me now, since I showed her how to lay her lily hands in mine. And who would not agree, she's a sight to see, and the treasure for the poor to find. If I need,
de retour dans l'émission Sine qua non pour entamer la dernière demi-heure de l'émission, car oui, à 19h, ce sera la fin, il faudra attendre le mois prochain. Eh oui, oh non, non, dites-le au micro quand même, comme ça, ça fait plus vrai. Il faudra attendre le mois prochain, oh non. Alors, aujourd'hui, dans la suite de l'émission, on va continuer sur... on a parlé un peu de Ridley Scott, mais je pense que on va passer au quiz. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez envie de rejouer? Comme le premier quiz vous a beaucoup plu,
il y a encore des
on va passer au deuxième
à
quiz.
Faire gagner.
Ouais, mais si l'arbitre il triche, comment on fait?
L'arbitre ne triche jamais. Moi j'ai été employé sur la Coupe du Monde 2026 et on est totalement objectif.
Ah oui, oui, j'entends.
Alors comme c'est facile, parce que j'ai fait un truc vraiment facile, je vais donner une consigne et si on ne respecte pas cette consigne, bah, ça donnera les points à l'autre. Parce que là il n'y a qu'une seule question. Et oui. Donc, voilà. Dans la liste des films suivants, il y a des films que 4 films que je vais vous annoncer, il y a un intrus, un film qui n'est pas dans le thème des autres films. Voilà. Et l'équipe qui va répondre en premier devra dire, pour que je puisse l'interroger, silence plateau. Voilà. Un mot que Ellie adore, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est compris, équipe à gauche, les Ziggy Stardust.
En gros, on est les débiles du plateau, c'est ça?
Non, je commence par vous. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire si on a la bonne réponse?
Silence plateau.
Ok, très bien. Et l'équipe à droite, qu'est-ce qu'il faut dire si on a la bonne réponse?
Silence plateau.
Voilà, très bien. Ils ont tous compris. C'est parfait.
Moi, l'entrain.
Un peu plus d'énergie, nous faudrait, là.
Ils ont déjà gagné, ils s'en foutent, c'est ça, en fait.
Alors, les 4 films sont donc... Premier film, Le Gendarme de Saint-Tropez. Deuxième film, Les Vacances de Monsieur Hulot. Troisième film, Maman, j'ai encore raté l'avion. Quatrième film, Les Dents de la Mer. Et cinquième, parce qu'en fait j'ai dit 4, mais il y en a 5, Baywatch. Quel est l'intrus?
Silence plateau. Je parle plus
fort. Oh là là, oh, c'était... Là, faut demander la VAR, mais je pense que ça se joue sur les Ziggy Stardust. Oh. Quel est l'intrus?
C'est Maman, j'ai encore raté l'avion, car tous les autres se passent à la plage.
J'avais dit que c'était trop facile.
Oh là là.
C'est très fort, c'est très très fort. Et du coup, les Ziggy Stardust, alors tout à l'heure, il y avait 8-2. Et ce quiz-là, il était...
T'es en train de me dire qu'on va refaire un truc à 8 points.
Celui-là, il en valait 12,5, je crois.
Poser des questions.
Donc, il y a donc 14,5 à 8. Bravo, les Ziggy Stardust. Vous êtes très fort.
Alors, tu as le droit d'aller lui péter les jambes. Franchement, c'est pour moi.
Et comme dit, comme alors non, ils ont gagné. Ils ont
on
gagné.
A gagné, on se détend.
Et oui, comme mais le dit, on a gagné aussi. Donc là,
tu as gagné une super place, c'est ça? Deux de
cinéma.
Oui, oui.
Deux places.
Et voilà. Deux places de cinéma.
Tu vas aller voir quoi avec ces deux places?
Je sais pas. Je vais voir. Peut-être la fin d'Oak Street.
Alors Ziggy Stardust, voilà, comme le dit le proverbe, movie sounds better with you.
C'était juste pour te dire que c'est pour David Bowie et
non,
non pour
c'est
la French...
Stardust, la French Touch. C'est la French Touch. C'est moi l'arbitre, c'est moi qui décide.
D'accord.
C'est la fin de ce quiz et on va pouvoir enchaîner avec la prochaine chronique qui est la prochaine chronique. Ah non, il y a un interlude d'abord. Est-ce qu'on fait l'interlude? Oui. Ou est-ce qu'on passe la... Ouais, on vient de sortir de la musique.
Comment on va mettre un peu de musique?
Alice,
yes.
C'est à toi.
C'est à moi. Ça va être dur après le quiz hein, de reprendre là.
Ah, je sais, mais tu vas y arriver.
Ok, let's go. Et en plus, ouais, en plus, on a perdu. J'ai trop de morale.
Ça charrie. Ça charrie.
J'adhère complètement.
Non, mais l'important, c'est de participer.
Je vais péter l'ambiance. Alors... donc ma chronique « I can't stand not knowing if it's end of May ». En 1998, Tom et Eileen Lonergan sont abandonnés en pleine mer. Le bateau qui organisait une sortie plongée est tout simplement parti sans eux. Une erreur de comptage, bête et humaine, mais qui a mené à une tragédie humaine qui s'ancre dans nos peurs les plus primaires. En 2003, Chris Kentis, réalisateur américain, s'inspire de ce drame pour le film « Open Water ». On y suit donc Suzanne Watkins et Daniel Kintner, joués par Blanche Ryan et Daniel Travis, qui partent pour des vacances bien méritées, faire de la plongée dans les Bahamas, et qui se retrouvent seuls au milieu de l'océan par un enchaînement malheureux de circonstances. Que cela soit dit, Open Water n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un bon film à l'attention bien marquée que je vous recommande. Je l'ai découvert cet été car pour contrer les canicules successives, j'ai décidé d'enchaîner les films de requins et de crocodiles. Je vous raconte pas les merveilles que j'ai regardées. Donc histoire d'apporter fraîcheur, hémoglobine et adrénaline à mon quotidien. Open Water était donc sur ma liste. Or, j'ai décidé de vous parler de ce film en particulier, car à mes yeux, mais ça peut être discutable, ce n'est pas un film de requins, et il est malheureusement vendu comme tel. Open Water nous place au milieu de l'océan avec Suzanne et Daniel, et imagine la détresse physique et émotionnelle d'une situation particulièrement horrifique et extrêmement réaliste. La question des requins se pose parce que, voilà, mais ce n'est là qu'une source de tension parmi d'autres. Donc sans trop en dire, parce que la beauté du film réside dans ce sentiment d'angoisse permanent, impuissance totale, espoir irréel, attente perpétuelle, il y a d'autres animaux dans les tréfonds de l'océan qui peuvent poser problème, mais il y a aussi la déshydratation, le soleil, la fatigue et bien sûr le moral. Contrairement aux films de requins habituels, Open Water ne présente donc pas une course-poursuite entre une créature aux dents pointues et bien souvent à la taille monstrueuse et quelques nageurs et nageuses désespérés. C'est l'humain face à la beauté terrifiante de l'océan, face à l'inconnu ou plutôt au-dessus de l'inconnu. Dans un tout autre registre, j'ai retrouvé dans Open Water certaines émotions du merveilleux L'Odyssée de Pi d'Angli, sorti en 2012. Le registre est celui du réalisme et non du merveilleux, mais on retrouve cette idée de l'impuissance humaine face au déchaînement naturel, mais aussi face à l'injustice parfois de la vie. Un naufrage dans l'Odyssée de Pi et une erreur humaine dans Open Water. Finalement, Suzanne et Daniel nous renvoient à notre condition terrestre, à la faiblesse de nos corps, à la force de nos esprits. La survie peut ne pas être une question de volonté et l'adage libéral du « quand on veut, on peut » perd absolument tout son sens. Le film fonctionne aussi parce que le réalisateur a choisi une mise en scène qui nous place avec les personnages dans cet océan sans fin où la beauté du paysage se transforme au fur et à mesure en un enfer gigantesque. Ballotté par les vagues, avec une image granuleuse, à hauteur d'une tête qui cherche l'air au-dessus de tonnes et de tonnes d'eau, nous aussi on finit par manquer d'air, alors qu'on accompagne les personnages dans leur dérive, leur espoir et leur prise de conscience. Au milieu de l'océan, personne ne vous entend crier. Je finirai, sans spoiler, par souligner également le choix scénastique final et ce dernier plan sublime par tout ce qu'il dit sans qu'aucun mot ne soit prononcé. En commençant Open Water, je m'attendais à frissonner devant des dents acérées, des personnes paniquées faisant des choix tout à fait discutables et une créature aquatique se rassénérant tranquillement de pauvres touristes qui commençaient à flirter sur leur bateau de plaisance. Finalement, je me suis retrouvée au milieu de l'océan, à paniquer avec les personnages, à chercher de l'espoir dans les eaux profondes et à me dire que définitivement nous ne sommes rien, si ce n'est de pauvres bipèdes au corps étrangement faible qui nous pensons au-dessus des forces de la nature. Le tout quasiment sans requin. Donc pour qui veut frissonner d'angoisse plus que d'hémoglobine, c'est ma recocinée. Merci.
Merci Alice. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cette chronique?
J'ai adoré ce film.
T'as adoré ce film?
Ouais. Yeah.
Donc là, on est sur... Ok.
Je valide.
Ok, pas de...
Oui, alors, j'ai pas vu le film, mais le pitch me fait penser à un film que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était l'année dernière, qui s'appelait Soudain Seul, avec Mélanie Thierry et... J'ai son nom sur le bout de la langue. Gilles Lelouch. et il était vraiment très bien. Pareil, même pitch, ils font un petit tour en amoureux, voilà, ils finissent sur une île, ils font le tour et ils reviennent, et plus de bateau. Voilà. Donc voilà, je vous le conseille aussi, il était très bien.
C'est noté. Et sans requin du coup par contre. Sans requin.
D'ailleurs, Jack Gyllenhaal devait être l'acteur à la place de Gilles Lelouch et ça a changé la dernière quelques jours avant. Pour la petite histoire. Donc voilà.
On va enchaîner tout de suite avec le prochain interlude musical qui est Romain.
Alors là, tu voulais quelque chose de plus dansant,
oui,
mais toujours mélancolique.
Est-ce que t'as un truc qui se danse, s'il te plaît?
Parce que c'est Catherine Ringer, chanteuse des Rita Mitsouko.
Ouais.
Et les Rita Mitsouko sont les spécialistes de parler de choses graves tout en dansant et en étant rythmé.
Ah oui.
Quand ils parlent du cancer avec Massia Bialya ou des trains d'Auschwitz avec le petit train. Donc là, c'est Doudadi qui est de la BO des Trois Frères. Donc je vous laisse avec ce morceau qui est super sympa.
Pourquoi veux-tu m'abandonner alors que tu m'as tout donné, Doudadi? Ces choses-là ne se font pas, mon doux papa. Tu me dis que je suis plus une gamine, mais je suis pareil que Marilyn, Doudadi. Le seul homme pour qui mon cœur bat, c'est toi, papa. Reprends-moi dans tes bras velus, comme la petite fille que je ne suis plus. Reviens sur tes genoux, ah dada, comme autrefois. Je t'en supplie, je t'en prie, m'abandonne pas. Je ne suis plus personne si tu m'abandonnes. Je t'en supplie, je t'en prie, m'abandonne pas, papa. Surtout pas. Je veux te suivre n'importe où, ce que les gens diront, ça je m'en fous, Doudadi. D'autres maris, je n'en veux pas que toi, papa. Je veux pas grandir, je veux rester avec mon landau, mes poupées, Doudadi. Faire de gros poutou poutou, mon daddy tout. Oh, viens me porter dans mon lit. Me faire plein de guili guili. Et puis sur tes genoux, ah dada, comme autrefois. Je t'en supplie, je t'en prie, m'abandonne pas. Je ne suis plus personne si tu m'abandonnes. Je t'en supplie, je t'en prie, m'abandonne pas, pas, pas. Surtout pas. M'abandonne pas, pas, pas. Surtout pas.
And half a pop, that's pop is spinning by the tube of tea, like a poppy spring. Metting to bed another Tino, making other matches in the middle of the journal, but a tea. But each one that can sign it since give up the beast on four, each one that can sign it since give up the beast on four, each one that can sign it since give up the beast on four, each one that can sign it since give up the beast on four, each one that can sign it since give up the beast on four, each one that can sign it since give up the beast on four, each one that can sign it since give up the beast on four, each one that can sign it since give up the beast on four,
each one. M'abandonne pas. Je ne suis plus personne si tu m'abandonnes. Je t'en supplie, je t'en prie, m'abandonne pas, pas, pas. Oh, surtout pas. Je t'en supplie, je t'en prie, m'abandonne pas. Je ne suis plus personne si tu m'abandonnes. Je t'en supplie, je t'en prie, m'abandonne pas, pas, pas. Oh, surtout pas.
De retour sur Radio Campus, et c'était les Rita Mitsouko.
C'était Catherine Ringer.
Ah oui, okay.
Presque. Je précise.
En featuring avec
Didier Bourdon.
Didier Bourdon, et oui. D'ailleurs, Les Trois Frères, celui-là, je l'ai vu. Il est... Très drôle, ce film. Donc, on valide cette sélection. Avant de passer à ta chronique, Romain, ta fameuse chronique et ton dernier extrait, on va faire quelques petits remerciements, car il sera l'heure ensuite de rendre l'antenne. Voilà. Faut qu'on travaille notre jingle, hein, quand même. Alors, on va remercier évidemment le Cinéma Pâté d'Orléans de nous accueillir toujours dans le hall et de nous offrir aussi ces merveilleux pop-corn sucrés qu'on est en train de dévorer et qui nous feront ne plus manger pendant 3 jours. Facile. On remercie Radio Campus Orléans, le Saint-Disque et évidemment Onifilm ainsi que notre invité du jour, Maud. Merci beaucoup d'être venu. Allez. Et de nos deux spectateurs surprises qui ont assisté à toute l'autre moitié de l'émission en plus des quiz. Et en plus, vous avez tous les deux gagné, je crois. Donc est-ce que c'est plaisant de gagner quand même? C'est cool.
Oui.
Ouais.
Ouais.
Vous savez cool. À peu près ce que vous allez voir avec les places que vous avez gagnées?
Eh bien, le film qu'on m'a recommandé.
Ouais.
Pas Obsession, non, c'était Oxford.
The End of Oak
Street. The End of...
La fin d'Oak Street. Ouais.
Ouais, je pense la même chose.
Ça aussi, donc vous... super. Bah, vous pourriez y aller ensemble, comme ça.
Vous me l'avez bien vendu.
Eh bien, très bien. Romain, est-ce que tu te sens prêt?
Si je me sens prêt, oui. S'il continue à ouvrir et claquer les portes, ça va être super. Non, je rigole. Je suis une mauvaise langue. Il y a des gens qui rentrent et qui vont au ciné. Ça me rassure.
Bah oui, non, mais ils viennent assister à la fin de l'émission.
Exactement.
Voilà. Et notamment à ta chronique.
À ma chronique que tout le monde attend, bien sûr.
Exactement.
Donc, chers chroniqueurs, chères chroniqueuses, chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui, je vous emmène faire un tour du côté de la fin des années 90 avec Build It Up, Tear It Down. C'est bon, Alice?
Je suis désolée, j'ai rien compris.
Voilà, c'est ça. Donc, de Fatboy Slim, extrait de la bande originale de Human Traffic, une comédie britannique sortie en 1999. C'est bon, j'ai bien dit?
Oui, c'est bon.
Super. Merci, maîtresse. Donc, pourquoi ce morceau? Tout simplement parce que c'est encore l'été, la saison où on a envie de retrouver les copains, de sortir, de danser, de vivre la nuit. Même si cette histoire se passe sous la pluie galloise. S'il y a bien un film qui capture cet état d'esprit, c'est Human Traffic. Même si certaines références ont un peu vieilli, le film est un formidable témoignage de la culture club britannique à la charnière des années 90 et 2000. On y suit une bande d'amis qui attend impatiemment le week-end. Le parcours est presque initiatique. On commence au pub, on poursuit la nuit dans un club où apparaît le légendaire Carl Cox en patron de discothèque, avant de finir en after quelque part au Pays de Galles. En quelque sorte, Human Traffic, c'est le cousin exubérant de Trainspotting. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la bande originale de Trainspotting, je vous la recommande chaudement. La différence entre les deux films est assez simple. Trainspotting, c'est le copain un peu désabusé qui refait le monde à 5h du matin. Human Traffic, lui, c'est celui qui vous attrape par la main en disant « Allez, encore un dernier morceau !» alors que le soleil est déjà levé. Et justement, parlons de musique. Je vous conseille vivement d'écouter toute la bande originale de film. Ce n'est pas une simple compilation. Elle a été pensée comme un véritable DJ set, ou comme dans les films, à votre dealer de vinyle. Chaque morceau a été pensé, arrive au bon moment, comme si quelqu'un vous faisait découvrir sa collection de disques. On passe de la house au breakbeat, de la techno à la drum and bass, avec une vraie cohérence. Mais Human Traffic raconte aussi autre chose. À la fin des années 90, la culture techno, les rêves et les free parties étaient régulièrement montrés du doigt par les pouvoirs publics. Et malheureusement, ce sujet est loin d'avoir disparu. Encore récemment, plusieurs sound systems ont vu leur matériel saisi, parfois détruit, avec des sanctions pouvant dépasser les 30 000 euros par organisateur. Cette chronique n'est pas un plaidoyer, c'est simplement un rappel. Les musiques électroniques ne sont pas nées dans des grandes salles ou les festivals sponsorisés. Elles viennent d'une contre-culture, d'espaces de liberté et d'expérimentation. Sans cette contre-culture, il n'y aurait probablement jamais eu de culture populaire telle que nous la connaissons aujourd'hui. Pour prendre une image parlante, il n'y aurait sans doute pas de David Guetta sans des artistes comme Manu le Malin. Alors s'il me reste un vœu pieux à formuler avant de lancer ce morceau, c'est celui de voir un jour un dialogue plus apaisé entre les institutions et celles et ceux qui continuent de faire vivre cette culture, souvent de manière bénévole et passionnée. On se quitte avec Fatboy Slim et Ball It Up, Tear It Down, extrait de la bande originale de Human Traffic. Très belle fin d'été à toutes et à tous, et prenez soin de vos oreilles autant que de vos nuits. Merci.
Thank you.